Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Dans les histoires, les loups se suivent, ne se ressemblent pas. Le loup qui rôde, qui court, qui chasse, qui tue, qui mange, qui joue sous la lune, qui dort, qui se reproduit et qui hurle souvent. Raouh ! Raouh ! Raouh !
Le loup a été éradiqué sur notre sol au niveau national entre 1890 et 1930. Après, on parle des derniers individus tués en 37 dans l'Allier, 54 dans les Deux-Sèvres. Personnellement, je ne serais pas en mesure de vous dire quel fut le dernier loup sauvage tué en Lozère ou en Occitanie. Par contre, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que le loup a disparu de notre sol durant environ une soixantaine d'années. Et on a eu les premiers loups, même les deux premiers individus, identifiés officiellement par l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, en 2006, avec des loups d'origine, ce qu'on appelle de lignée italo-alpine. Et les deux premiers loups avaient été identifiés sur l'Aubrac. Aujourd'hui, pour ces professionnels, vous auriez environ une demi-douzaine de sujets sur le département.
Sylvain Maquis, responsable zootechnique du parc du Gévaudan.
Il n'y a qu'une espèce de loup, il y avait un 30 sous-espèces de loups. Donc vous avez des loups qui font 20 kilos dans les déserts, par exemple de l'Inde, et puis vous avez dans l'Arctique ou dans la Sibérie, des loups énormes pour résister au froid, justement, qui sont devenus très gros, et vous avez des mâles qui font 80 kilos. Par exemple, le loup italien a des petites barres blanches sur les pattes, donc on sait que les loups français, par exemple, ont cette petite barre sur les pattes, claire, donc on sait que c'est des loups italiens. Un loup, ça peut vous faire 100 km dans la nuit. Les loups qui sont dans les Pyrénées actuellement français, on croyait qu'ils venaient d'Espagne, pas du tout. Ils viennent d'Italie, c'est-à-dire ils ont fait toute la France, tout le sud de la France. Donc ils ont traversé le Rhône, ils ont traversé les autoroutes. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des loups qui sont écrasés. Et donc, s'imaginer qu'en zigouillant le loup du coin, on va régler le problème, c'est complètement naïf. En quelques semaines ou quelques mois, le loup est remplacé. Et bon, d'un autre côté, bon, il faut voir l'éleveur, lui, il est coincé. Il n'est pas là pour faire de la science. Et les autorités ne prennent pas le problème sérieusement.
Pierre Jouantin, éthologue, chercheur au CNRS.
Dans la nature, un loup, ça ne vit pas individuellement, seul, ça vit en meute. Il n'y a qu'un couple qui dirige la meute. Il y a la femelle est dominante sur toutes les autres femelles, le mâle est dominant sur tous les autres mâles, et le groupe, c'est entre de deux, disons, un couple, jusqu'à 20 à peu près individus. C'est une famille élargie. Parfois, ils récupèrent un individu extérieur, mais c'est rare la plupart du temps. C'est la même famille avec les jeunes des années précédentes qui donnent un coup de main et qui non seulement participent à la chasse, mais en plus nourrissent les jeunes. Tout le monde se met au service de l'élevage du couple. Il n'y a que le couple dominant qui peut se reproduire. Les autres sont castrés psychologiquement. C'est-à-dire que sitôt qu'ils font mine de s'accoupler, dans chaque sexe, le dominant, le mâle ou la femelle, les empêche, les menace, et donc ça les castre psychologiquement et physiologiquement, c'est-à-dire que par exemple les femelles ne peuvent plus faire de jeûne, et donc ça bloque le système. C'est un système qui est tout au service d'un couple. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, l'origine du chien, c'est que quand ils deviennent adultes, enfin, quand ils sont 3, 4, 5 ans, ils essayent de remonter dans la hiérarchie et donc ils se mettent en compétition chaque année avec des dominants pour essayer de se reproduire, c'est-à-dire arriver à monter au sommet de la hiérarchie. Et là, il y a des conflits. Et donc, à mon avis, c'est ça le danger que les hommes préhistoriques ont évité en créant le chien, qui est une sorte d'ado éternel. C'est un adolescent permanent, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné des loups, des jeunes loups, qui restaient infantiles toute leur vie, et qui sont devenus les chiens. Donc en réalité, le chien, c'est un loup qui ne devient jamais adulte.
Moi, je me suis dit que pourquoi il y en a qui trouvent les loups méchants alors qu'ils sont gentils et qu'ils ont peur de nous.
On va dire que suivant les civilisations, les mythologies, le loup était tantôt haï, tantôt adoré. Ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est qu'il n'a jamais laissé indifférent. Donc, où nous cherchons à le détruire, bon, par rapport à des mythologies scandinaves, Fenrir, entre autres. Mais si vous preniez simplement l'exemple de nos voisins italiens, dans la mythologie romaine, vous avez la légende de Rémus et Romulus, l'image de la louve romaine, avec la plupart des Romains, des Italiens, qui pouvaient se considérer comme les fils de la louve. L'image était quand même très positive. Mais c'est un animal qui a toujours fasciné, ça c'est évident. Personnellement, je trouve que son regard est fascinant. Toujours cette impression de, où il peut lire en vous, ou du moins qu'il peut vous traverser, vous transpercer. C'est quand même l'histoire de la bête du Gévaudan. Même si certains auteurs ou historiens par la suite ont pu chercher à l'associer au loup, les gens d'église de l'époque, les différents abbés ou curés, n'ont pas représenté le loup comme étant responsable de toutes ces victimes. C'est bien plus tard qu'on a commencé à avancer l'hypothèse du loup. Les paysans qui, eux aussi, 250 ans en arrière, avaient l'habitude de voir des loups, étaient en mesure de reconnaître l'animal. Ils ont parlé d'une bête parce qu'ils n'ont pas pu identifier un loup. Cette fameuse bête avait la particularité de délaisser systématiquement agneaux et brebis pour cibler le protecteur du troupeau. Jeune fille, jeune femme, enfant. Mais si à l'époque on était capable de laisser un enfant seul en protection près d'un troupeau de moutons, c'est parce qu'on savait déjà que les loups ne représentaient pas une menace pour lui. Avec, en aparté, une parenthèse sur la possibilité du loup enragé. Après, un loup enragé pourrait être dangereux pour l'homme au même titre qu'un renard ou qu'un chien enragé, mais c'est quand même la maladie qui le rend agressif. L'Église a eu un rôle important aussi. Depuis l'aube de la christianisation, le loup était associé au diable et à Satan. C'est un deuxième point. Les contes, si on prend les contes de la Merloise, Charles Perrault, La Fontaine, et tous les fables hein, aussi. Donc, tout ceci ont contribué à entretenir cette peur de l'animal. Ou en cherchant par la suite à le détruire, ou en le tournant en dérision avec la plupart des femmes.
Ils étaient bergers sur les montagnes Pyrénées. Cette année-là, ils avaient loué un nouveau pâturage. On y envoya le petit avec deux agnelles. Pour y parvenir, il fallait franchir une vallée profonde, hérissée de taillis broussailleux et de rocs, entre deux gouffres sombres. Les gens d'ici avaient baptisé ce sinistre passage les terres inconnues. Le petit garçon avait taillé sa route en sifflotant, avec ses belles agnelles devant. Il avait longé, tranquille, le bord aiguisé des précipices, et puis chanté clair en traversant les brouillards glacés que déchiquetaient les troncs fantômes de la vallée maudite. Le soir, en rentrant, il avait raconté en souriant que, sur sa route, il avait rencontré un très joli chien qui avait essayé de lui prendre une brebis. Les vieux bergers s'étaient regardés. Ils savaient comme la peur est mauvaise conseillère et qu'avec elle sur le dos, le petit ne serait plus jamais assez léger pour traverser les passages escarpés de cette montagne qu'il aimait tant. Alors, ils se sont contentés de marmonner « Oh, mais ça, rien de grave, mon petit, c'est rien !» Ainsi, nulle crainte ne vint se coller au basque du petit, qui savait traverser, confiant, la brume des apparences. Et jamais la peur n'osa venir troubler la belle eau claire de ses yeux.
J'ai beaucoup aimé, ça a beaucoup parlé du loup. Et il y a beaucoup d'expressions sur le loup, crier au loup, se jeter dans la gueule du loup.
Pierre Jouventin a hébergé une jeune louve.
Quand elle est arrivée, elle avait une semaine. On savait qu'il vaut mieux que les louveteaux ouvrent les yeux chez l'humain. Parce que si vous prenez un louveteau trop tard, il est imprégné au loup. Et donc, il se considère comme un loup et il vous considère comme un étranger. Donc, par contre, si, comme il ne connaît pas son espèce, si vous lui laissez ouvrir les yeux devant des humains, ben, il se considère comme un humain. Donc, en réalité, nous, on savait très bien que c'était un loup, mais elle croyait qu'elle était un humain. Eh bien, moi, j'étais persuadé, quand, moi, c'était mon métier, hein, je suis éthologue, donc je suis écologue, c'est-à-dire que éthologue, c'est la science du comportement animal, écologie, c'est la science des rapports entre l'animal et son milieu, et donc ça me paraissait des conditions tellement artificielles, un loup à l'appartement est imprégné à l'homme, qui ne voit jamais d'autres loups, enfin, on essayait de maintenir le contact avec des chiens, mais en fin de compte, je pensais que c'était trop artificiel et que je ne trouverais rien. Or, justement, le fait qu'on ait fait ce truc-là, et comme quand même j'avais l'œil du professionnel, j'ai découvert quelque chose qui, à mon avis, est très important et qui est toujours ignoré par les spécialistes, c'est que le loup est altruiste. Quand, par exemple, on allait sur le balcon, elle nous tirait par le pantalon. On se disait, c'est quand même bizarre, ça peut être agressif, elle nous tirait du bout des dents. Donc, quand on se penchait à la fenêtre, elle nous tirait par le bras ou par le col. Quand on approchait d'une piscine, elle se mettait au milieu. Pendant 6 mois, on se demandait bien ce qu'elle voulait, parce qu'on ne comprenait pas. Quand on prenait son bain, elle nous tirait par le coude. Donc on se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le lien? Alors, en allant se baigner à Ganges, on s'est aperçu que la louve se jetait 10 fois de suite à l'eau. D'une part, elle se sentait obligée d'y aller, et deuxièmement, elle nous ramenait délicatement, hein, sans serrer, donc, parce qu'elle ne nous a jamais mordu jusqu'au sang hein, toute sa vie. Donc j'étais un peu surpris, et là j'ai compris qu'en réalité, ce qu'elle considère comme un danger, elle essaie de vous en protéger. Donc en réalité, quand elle nous retirait pas du balcon, c'était parce qu'elle avait peur qu'on tombe de la fenêtre, etc. Quand on se baignait, même qu'on prenait son bain, elle avait l'impression que c'était un danger de se noyer, donc elle nous tirait, et donc elle nous sauvait de tout danger. Et ça, c'est arrivé uniquement à la maturité sexuelle.
Vous avez dit, le loup, c'est le bouc émissaire des angoisses humaines et révélateur des problèmes sociaux.
Eh bien, je dis ça parce que chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'en particulier en France, mais enfin c'est pareil partout, chaque fois que la structure sociale commence à donner des signes de faiblesse, on se focalise, on se rabat sur le loup. Et par exemple, vous avez entendu parler de l'histoire de la bête du Gévaudan. Bon, ça arrive 3 ans avant la Révolution française. Probablement, il y avait peut-être un loup ou quelques-uns, mais en tout cas, c'est pas possible que tout, il y a eu tellement de cas et des cas tellement extrêmes où les bergères étaient déshabillées ou décapitées. En fait, c'est des trucs tellement on ne voit pas un loup en train de déshabiller quelqu'un. En fait, ce n'est pas possible, d'une part, qu'il y ait une seule meute de loup ou un seul loup qui ait fait tout ça, et d'autre part, ce n'est pas possible que tout vienne du loup. En réalité, manifestement, l'homme est intervenu parce qu'après, il met tout sur le dos du... Donc, ça, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, quand il y a des problèmes sociaux, c'est le bouc émissaire parfait.
Ainsi s'achève le premier épisode de notre feuilleton « Le loup occitan entre mythe et réalité ».
Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Le loup occitan entre mythe et réalité a été réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec Radio Larzac, Radio Balade, 48 FM et RPH Sud. Musique Delphine Aguilera, comédien, conteur, Philippe Charleux et Jean-Louis Ducidour.